Troisième partie, en mer. Chapitre 1, colère. Quelques jours après l'arrivée de Delphine, Luc dormait trop longtemps au goût de Maud. Il laissait passer le temps qui filait comme du sable glissant entre des doigts entrouverts. Maud le voyait somnoler le matin, l'isoter, paresser, avant de se décider à aller faire une balade ou louer des bicyclettes ou prendre un bain de mer ou embarquer sur l'un des bateaux du yacht club. Elle le trouvait nonchalant alors qu'il avait, d'une certaine façon, charge d'âme. Il était le leader du groupe des jeunes, l'astre autour duquel tournaient les deux satellites qu'étaient sa petite amie et son plus jeune frère. Maud l'observait, et la tristesse, son ennemie intime et toujours menaçante, avait alors commencé son détestable ouvrage de sape. Maud avait immédiatement réagi. Elle avait, dans le passé, enduré de trop profondes souffrances sous son emprise. Elle ne le supportait plus. Elle disposait désormais de moyens de défense et elle engagea fermement le combat. « Je suis par trop stupide », se répétait-elle en boucle, fâchée contre elle-même, « d'avoir laissé accessible une fissure où l'assaillant s'était précipité. Je suis stupide, surexcitée. Et pourquoi donc mon fils devrait-il agir comme moi lorsque j'avais 17 ans ?» à Signac, au bord de la mer. Ah oui, j'étais active. Je naviguais tous les jours. Je hissais le foc et la grand-voile du vaurien de mon père et j'embarquais pendant des heures au large de la plage. Et pour la peine, lui aussi devrait à tout prix faire des exploits sur des vagues écumantes dans une forte brise sous prétexte que j'ai eu l'honneur, dans ma jeunesse, de tirer quelques bords sur le bateau de mon père. La comparaison n'a pas de sens. Qui étais-je à Signac, à l'époque, sur la plage? Mes sœurs étaient présentes, et pourtant mon cœur ne se dilatait pas de joie, alors que Luc connaît un bonheur sans nuages quand il est avec son frère. Ils ne se quittent pas. Ils éprouvent, lorsqu'ils sont ensemble, tous deux, la même exaltation. J'étais seule en réalité, j'en souffrais. J'observais des jeunes sur la plage qui s'amusaient. J'avais même essayé une ou deux fois de m'approcher, de leur parler. C'était raté, faux, artificiel. J'ai vite abandonné. Alors franchement, de Luc ou de moi, qui vraiment peut critiquer l'autre ? Luc est plus heureux, plus équilibré que je ne l'étais. Il est plus calme. Je suis obsessionnel, rigide. Il peut bien vivre comme il l'entend. Il est moins angoissé, moins directif. Quel est mon problème au fond? Je le juge. Je l'évalue. Je ferais mieux de vivre ma propre vie. Je l'observe au lieu de vivre. Je vais agir. Je le jugerai moins. La mer est magnifique, je ne cesse de l'affirmer, je vais en profiter. Cela me calmera, je naviguerai et mes critiques cesseront. D'autant plus que je ne supporte pas de le dénigrer. Nom d'un petit bonhomme, se disait-elle. La vie est trop belle, je ne vais pas me laisser ennuyer par des pensées malveillantes et douloureuses. Le soleil est trop ardent, la mer trop brillante, trop accueillante, le sable trop doux et la structure voilière ici à Kerbillan trop parfaite. Et Thibault en ce moment, si conciliant, souple, gentil, facile à vivre. Et mes garçons, à 24 et 21 ans, sont avec nous, sans souffrir apparemment d'une quelconque déprime juvénile. Ils ne fuient pas le toit estival familial, ils s'y sentent bien, mieux visiblement que loin de nous. Et notre vie matérielle, la mienne, celle de Thibault, est assurée à ce jour. Et Luc et Romain préparent leur avenir, pour que les contraintes matérielles plus tard leur soient légères, dans la mesure du possible. Et aussi, le plus important, leur corps ne leur impose ni à l'un ni à l'autre de sévères limites. En d'autres termes, La maladie ne les touche pas, pour l'instant du moins, l'on ne connaît pas l'avenir. Ce danger-là vogue ailleurs, et il marque, on le sait, de sa terrible empreinte d'autres êtres, moins chanceux. Décidément, sa perlipopette est poudre de perlimpinpin. Je ne vais pas me laisser ennuyer par de nauséabondes idées, par ma tendance à ne pas faire confiance, à ne pas laisser vivre. Mes défauts ne saboteront pas, nom d'une pipe en bois, ces jours d'été chauds et lumineux. Chapitre 2. En mer. Maud s'était levée, maussade et silencieuse, le matin où la tristesse avait lancé son offensive. Elle avait réagi, la roue de la vie s'était remise à tourner et elle avait, dès l'heure du déjeuner, retrouvé l'envie de parler à Thibault. Elle était fermement décidée à chausser au plus vite ses sandalettes en plastique, à mettre les pieds dans l'eau et à enjamber le plat-bord du petit dériveur qu'elle louerait au point plage passion. Dès le lendemain, lors de son premier moment de liberté, c'est-à-dire aux alentours de 16 ou 17 heures, elle monterait dans un laser solo. Elle se pencherait vers l'arrière du bateau, elle placerait le safran en position verticale pour qu'il fende les flots et emplisse efficacement sa fonction de gouvernail. Elle jetterait en même temps un rapide coup d'œil vers l'étrave pour diriger l'embarcation et éviter la haute digue de pierre qui s'élève sous le vent, sans pour autant se retrouver arrêtée de l'autre côté au vent, insensiblement entraînée hors du lit de la brise. Elle se saisirait de l'écoute de grand voile, vérifierait la position de la dérive et, à cet instant, maîtrisant les différents éléments du bateau, elle devrait normalement réussir à tracer sa route vers la sortie du port. Maud avait précisément respecté son programme maritime. Elle avait chaque jour, par temps agité ou par calme plat, glissé sur les vagues miroitantes devant la grande plage de Kerbihan. La gîte l'avait portée sur des embruns houleux, sous de sombres nuages, ou dans une lumière éclatante. Elle avait échangé de chaleureuses salutations avec les navigateurs croisés au large de Port-Andreau. Elle était, par ailleurs, demeurée vigilante. Elle avait certes navigué dans sa jeunesse, mais elle n'avait repris la barre d'un dériveur qu'en 2013. Elle n'avait pas renouvelé l'expérience l'été suivant, en 2014. Et elle embarquait de nouveau cette année. Il lui fallait se souvenir des conseils donnés par Luc 2 ans plus tôt. Il l'avait éclairé sur la bonne façon de virer de bord. Avant les explications de son fils, Maud concluait « Pour peu que la brise fraîchisse, ces changements de cap par d'inévitables dessalages. » Prudence et prévoyance l'habitaient lorsqu'elle reprit contact en août 2015 avec la très instable embarcation. Elle s'exerça au début de chaque sortie à virer de bord. Elle s'y contraignit, même lorsqu'elle traçait un bord équilibré, qu'elle aurait eu envie de savourer dans la durée, même lorsque le vent forçait et l'inquiétait. En ce dernier cas, elle s'y obligeait d'autant plus que le risque d'échec était alors plus affirmé. Elle préférait tenter au plus vite le changement d'amure pour savoir si sa tentative se conclurait par un plongeon involontaire. La balade maritime du jour serait alors terminée. Le succès était, dans les faits, régulièrement au rendez-vous. Maud s'en réjouissait, sans toutefois oublier que le vent pouvait forcir. Elle entamait donc un nouveau virement de bord. Elle ne s'installait pas dans le confort d'un bord bien établi, voile fermement ajustée, bordée et étarquée, bateau en tension. Elle ne se contentait pas de sentir la force des rafales qui appuyaient précisément au centre de la grand-voile, tendant à entraîner le bateau loin de la ligne du vent. Elle percevait la résistance de la dérive et du safran, qui s'opposait à cette poussée de la brise, en s'enfonçant profondément sous la coque. Le poids de son propre corps, déporté vers l'extérieur, au vent de l'embarcation, contrebalançait aussi la force continue appliquée sur la toile. Maud interrompait cet équilibre constamment gagné, mais également fragile. Il aurait pu, en une seconde, être rompu. Il aurait suffi que l'écoute, le mât ou le hallebas lâchent sous la pression du vent. Maud brisait l'équilibre de l'instant. Elle entamait un nouveau virement de bord. Ensuite seulement, après s'être assurée qu'elle maîtrisait la navigation, elle pouvait réellement apprécier les moments passés dans la magnifique baie de Quiberon. Maud avait atteint son objectif. Elle avait réussi à naviguer chaque jour et s'était débarrassée du détestable sentiment d'amertume qu'elle avait éprouvé envers son fils. Elle se trouva alors en mesure de profiter du bien-être des journées estivales. Parvenir à maîtriser les virements de bord avait constitué un préalable technique à la navigation. Une autre étape, tout aussi nécessaire à ses yeux, avait précédé sa première sortie en mer. Elle avait d'abord longuement discuté avec Thibault. Elle lui avait proposé de l'accompagner. Il était absent lorsqu'elle avait, 2 ans plus tôt, repris la barre d'un dériveur. Il avait à l'époque déjà regagné Paris pour son travail. Maud aurait voulu qu'il accepte. Elle était toujours à la recherche d'activités nouvelles à partager avec lui. Elle craignait que leurs occupations communes ne soient pas assez nombreuses. Ils se promenaient au bord de la mer, ils allaient au restaurant, ils jouaient aux échecs, ils regardaient des films à la télévision, et surtout, Maud lui parlait. Elle lui offrait le récit de leur vie, un ruban de mots qui accompagnaient leur jour, tout à fait indispensable pour elle, et qu'il avait la gentillesse d'accepter. Maud aurait accueilli avec enthousiasme une activité de plus. Thibault avait cependant fermement refusé. Il était resté campé sur ses positions habituelles. Ils avaient souvent eu cette conversation dans le passé. Maud n'avait cessé de lui proposer, bien avant 2013, l'année où elle avait effectivement renoué avec la voile, de faire du bateau avec lui. « Nous pourrions naviguer ensemble », lui avait-elle souvent suggéré lorsqu'il se promenait sur le chemin des douaniers. Les voiles croisaient devant eux entre les bouées cardinales et les bateaux mouillés au large de la plage. Maud posait la question, bien qu'elle éprouvât, à dire vrai, quelque peine à imaginer sur quel bateau ils auraient pu embarquer. Les dériveurs proposés à la location étaient ces fameux lasers solo, légers et aisément renversés. Où donc son mari, de grande taille et de vaste carrure, à la belle silhouette plus qu'arrondie au niveau de la taille, aurait-il placé son quintal largement dépassé dans une si petite embarcation? Maud n'avait pas la même stature, 1m63 pour 47 kilos, son gabarit n'était pas comparable. Le meilleur endroit pour la considérable masse de Thibault se serait sans doute situé au milieu du bateau, au niveau de la dérive, mais Maud n'aurait pu garantir qu'ils ne se précipiteraient pas tous deux au fin fond des abysses. Que Thibaut se déplace au moment inopportun, ou bien à bâbord plutôt qu'à tribord et réciproquement. Et ils auraient dès lors atteint ces tristes extrémités. Quant aux catamarans réputés pour leur stabilité, Maud n'y pensait même pas. Elle aimait la voile façon vieille école. Un multicoque tirait des bords raides et rectilignes, comme un train filant sur une voie ferrée. Comment percevoir dans ces conditions la mouvance et la souplesse, les ondulations et les oscillations, la vie des vagues et des courants? Maud endossait le rôle de la puriste de la voile, une attitude toute proche d'un relatif passéisme, frôlant même, oserons-nous l'affirmer, un certain snobisme. Cette hypothèse ne la préoccupait que modérément. Elle se contentait de pratiquer la voile qui lui plaisait. Elle n'avait jamais essayé de naviguer sur un catamaran et ignorait si elle aurait su le manœuvrer. La conclusion demeurait donc inchangée. Elle ne pouvait a priori choisir pour une sortie avec Thibaut que le laser solo, aussi vif que sportif. Elle n'osait par ailleurs pas réellement imaginer la réaction du point plage passion accueillant ce drôle de couple du style Laurel et Hardy, le mari grand et massif, la femme petite et fluette. Peut-être s'opposerait-il tout de go à l'embarquement de cet équipage dans le frêle esquif prévu en théorie pour une seule personne. Naviguer en compagnie de Thibaut paraissait en conséquence pour le moins compromis. Maud voulait cependant connaître son opinion, car s'il avait manifesté le plus modeste début d'approbation, elle supposait qu'ils se seraient tous deux montrés bien assez malins pour parvenir à trouver une ébauche de solution. Mais pour chercher et creuser, pour réfléchir et insister, pour être créatif et imaginatif, il était nécessaire que Thibaut exprime, à l'origine, ne serait-ce qu'une très modeste amorce de désir, et ses réponses demeuraient définitivement inchangées. « Je n'ai pas envie, » répétait-il. « Comment veux-tu que j'apprécie sur l'eau? Je n'évalue ni les distances, ni les reliefs. » Thibaut ne voyait que d'un œil. C'est angoissant. Je ne serai pas rassurée. Mais vas-y, toi, de ton côté. Tu seras bien sur l'eau. Maud écoutait ces affirmations, celles-là même qu'elle voulait entendre. Elle obtenait ainsi la certitude de ne pas le blesser, ni de le frustrer en l'abandonnant sur la terre ferme. Elle n'aurait pas embarqué si elle avait perçu en elle le plus léger sentiment de culpabilité. Elle se tranquillisait également en pensant à la façon dont ils passaient leurs vacances les étés précédents. Ils avaient en effet depuis quelques années pris l'habitude de se séparer en fin d'après-midi. Après la balade et le restaurant, Maud prenait son ordinateur. Elle montait parfois dans un autobus. Elle s'installait d'autres fois dans un café et elle retravaillait ses textes. Thibaut, quant à lui, se penchait sur la question du dîner de Luc et Romain. Les deux frères avaient coutume d'être extrêmement gâtés en vacances par la bonne volonté et la créativité gastronomique de leur père. Celui-ci ne risquait pas cette année de délaisser cette activité puisqu'une convive de plus, en la personne de Delphine, était présente autour de la table. Maud avait clairement compris que Thibaut n'était pas attiré par la voile. Elle avait également réalisé que leurs journées seraient globalement les mêmes que celles des années passées. Et ce ne fut qu'une fois apaisée sur ces points qu'elle put, le cœur léger, se diriger vers l'équipe accueillante et souriante du point plage passion. « Bonjour, Madame Valente !» lançaient joyeusement les moniteurs du yacht club lorsque Maud approchait du comptoir de location. « Votre bateau est gréé, il vous attend sur la cale. » Le soleil brillait, le vent effleurait les fanions et les drapeaux. Maud ajustait son gilet de sauvetage, elle était prête. Le jeune homme de service qui l'aidait au départ poussait vigoureusement le tableau arrière du bateau qui s'éloignait sur la bonne amure. Maud s'entraînait ensuite à virer de bord et, une fois rassurée sur ses compétences, elle pouvait enfin apprécier l'instant. Elle percevait les secondes qui s'écoulaient les unes après les autres. Elle profitait de la chaleur sur la peau, du vent sur le visage et de la perspective de la longue plage où de minuscules taches de couleur figuraient les parasols, les serviettes et les bouées des enfants. La lumière caressait les vagues, le bateau traçait sa route tout en vibrant sous la brise. Maud prenait le large, elle s'accordait ce plaisir parce qu'un matin son humeur s'était trouvée indûment assombrie par la nonchalance de son fils.